En France, les menaces sur la liberté d'informer nous préoccupent.
L'autre soir, j'allume la télé comme un idiot. Pas de bol, c'était l'heure des infos.
À Vincent Bolloré, oui, je lui demanderai de rétablir le vrai journalisme.
Au nom de la mauvaise foi, de la fausse rumeur et de l'annonce publicitaire, je te baptise journaliste.
Burns possède tous les médias. Il faut que je dénonce ça avant qu'il soit trop tard.
Ah, vous les aimez pas, les journalistes.
Welcome to the world of the media.
Chaque jour, les journalistes nous informent, décryptent l'actualité et détricotent le vrai du faux.
Mais en coulisses, la profession trébuche et se heurte à de nombreux défis.
Le journalisme est un métier passion. Que se cache-t-il derrière cette formule attrayante?
À l'heure des réseaux sociaux et des fake news, comment s'informer de manière fiable?
Que faire quand la loi ne suffit plus à protéger ceux qui garantissent notre liberté de penser?
Entre pression, menaces et intimidation, comment les journalistes bretons enquêtent-ils?
Les médias indépendants trouvent-ils leur place dans un milieu médiatique sous forte pression?
D'habitude, ce sont les journalistes qui posent des questions.
Cette fois, nous sommes allés interroger le système de l'intérieur.
En quête de sens, une série documentaire en 5 épisodes réalisée par les étudiantes et étudiants du Master de Journalisme de Sciences Po Rennes.
Le journalisme est un métier passion. Le terrain, les rencontres, les deadlines, l'actu, toujours l'actu. Le but, un épanouissement intellectuel, professionnel et personnel total. Mais pour devenir journaliste, le chemin est semé d'embûches. Ce métier passion s'avérait aujourd'hui être un leurre, même un piège.
Le journalisme, c'est bouché.
Les places sont chères.
Il faut que tu te donnes à fond.
Au début, tu vas galérer.
Si t'en veux pas dans ce métier, t'y arriveras pas.
Le journalisme, c'est 10 ans de précarité.
Sur investissement, concurrence, piétinement du droit du travail et précarité, aujourd'hui, beaucoup de journalistes, notamment les jeunes, subissent de plein fouet cet environnement néfaste et quittent la profession pour cause de désillusion, d'épuisement, voire de burn-out. Cette réflexion autour du bien-être au travail, elle peut aussi mener certains journalistes à se battre pour leurs droits, pour sauver ce métier nécessaire à nos démocraties, qui malgré tout, continue d'attirer. Quelles concessions sont prêts à faire les journalistes pour continuer à exercer ce métier? À quelles désillusions font-ils et elles face? Qu'est-ce que c'est être précaire? Quelles solutions ont-ils et elles trouvées pour continuer? Journaliste, métier passion, métier poison, un épisode de Camille Margerie et Isis Marville. Pour cet épisode, nous avons rencontré 3 journalistes. La première d'entre eux préfère rester anonyme, on l'appellera Lucie.
Donc j'ai 24 ans, j'ai fait une école de journalisme reconnue par la profession à Paris. Et aujourd'hui, je travaille comme secrétaire de rédaction dans un média breton.
Je m'appelle Camille Maestracci, j'ai 35 ans. Je suis journaliste, pigiste, indépendante depuis 2019. Je viens de la radio et maintenant, je fais surtout du podcast depuis quelques années.
Donc, je m'appelle Martin Dumas-Primbault. Je suis aujourd'hui correspondant en Égypte, basé au Caire. Je travaille principalement pour la radio suisse RTS, la radio belge RTBF. Je travaille un petit peu pour Radio France et je travaille pour la presse écrite principalement pour La Croix, après avoir bossé un peu pour Le Figaro. Ça fait un an et demi que je suis en Égypte, ça fait un tout petit peu plus d'un an que je bosse comme correspondant.
Toutes et tous ont un point commun. Ce métier, ils veulent l'exercer depuis longtemps.
Alors, c'était honnêtement un rêve de gosse.
Pourquoi j'ai décidé de devenir journaliste? C'est un truc que j'ai eu en moi depuis toujours, de plus loin que je me souvienne, quand je me faisais des petites cartes d'identité à 10 ans. Je marquais journaliste, je marquais pas que journaliste, je marquais journaliste, reporter, photographe, aventureuse. Je me rappelle, je marquais ça.
Ça faisait très longtemps que j'avais envie d'être journaliste. C'était mon projet. Et déjà en entrant à Sciences Po, Rennes.
Quand j'étais petit, on m'appelait rapporteur. J'ai tant aimé l'idée que je suis devenu reporter. Un jour, mon chef de rubrique m'a dit: tu seras notre envoyé spécial là-bas au Paris.
Jean-Marie Charon, sociologue spécialiste des médias, a mené une enquête auprès de 103 journalistes âgés de 22 à 30 ans.
La très grande majorité des jeunes journalistes ont eu une vocation très, très précoce en général à l'égard de ce métier. Une phrase qui revient très fréquemment, c'est: j'y ai pensé au collège. Souvent aussi, Le stage de troisième va être considéré qu'un moment, un moment privilégié pour accéder à une rédaction.
Au début, on rêve de raconter des histoires, de tendre son micro, de présenter le JT, de partir en zone de guerre ou de dézinguer les gros méchants de ce monde avec la fermeté d'Élise Lucet. Et puis, badaboum, la réalité toque à la porte. Pour y arriver, il va falloir bosser, et pas qu'un peu. Souvent, on parle d'un parcours type, un institut d'études politiques et une école de journalisme reconnue.
La dominante, quand même, c'est un énorme engagement personnel. Quoi. Alors, un énorme engagement en termes de travail, pour eux, mais souvent aussi un engagement pour leur famille, parce que beaucoup de ces choses-là ne sont pas données. Quoi.
On se jette donc à corps perdu dans cette voie, et on y met toute son énergie dès le plus jeune âge. C'est notre passion, un sacerdoce.
Je pense qu'il y a une espèce d'idéologie, on ne peut pas appeler ça autrement, une idéologie professionnelle qui cultive l'idée selon laquelle, par définition, le métier de journaliste serait un métier d'engagement, et par définition, le métier de journaliste devrait occuper dans la vie toute la vie. Quoi. Il y a une phrase qui revient souvent et qui rend fou un certain nombre de jeunes journalistes, qui est « on est journaliste 90% de son temps ». Donc ça, c'est effectivement la marque, si vous voulez, de cette idée générale que de toute façon, parce qu'on est journaliste, on doit être engagé. Effectivement, souvent, l'école de journaliste cultive aussi cette idée, en se disant, si on les interpelle un peu sur le sujet, en disant « oui, mais il faut bien les préparer, il faut qu'ils sachent que », etc. Et c'est tout un débat que je retrouve, moi, dans mes entretiens, autour de ce qu'ils appellent l'employabilité, quoi. Nous préparer à être employables, et sachant qu'un certain nombre n'attendait pas ça de l'école.
Quelles sont les conséquences de cet engagement, parfois trop fort, des journalistes dans leur travail ? Peut-on devenir malade de sa passion ? Car malheureusement, les journalistes ne sont pas des super-héroïnes et héros, et ce métier passion peut devenir difficile à exercer, comme l'explique Lucie.
Bah en fait, je me doutais que l'alternance allait être difficile, et ça a été le cas. Pas forcément à cause de la partie en entreprise, parce que j'avais mis au clair les horaires à ne pas dépasser pour que j'aie du temps à me consacrer à l'école. Mais cette année-là, mon école a décidé d'expérimenter 2 modules en plus dans l'année, donc je me suis retrouvée noyée dans le travail et j'arrivais plus à suivre la cadence. Et d'ailleurs, j'ai été arrêtée pendant 2 semaines pour cause d'épisodes anxio-dépressifs au milieu de l'année.
En plus de la charge de travail, Lucie n'a pas été soutenue par son école.
On était 11 dans ma promo et on s'est concerté entre nous. On a rédigé des mails signés par tout le monde pour demander est-ce qu'on ait plus de temps pour réaliser nos travaux. On s'est pris un mur dans la figure parce que l'école n'a rien voulu entendre. Il disait qu'on était des feignants, des élèves ingrats et ils ont rien fait pour changer les choses. À ce moment-là, je me suis sentie très seule et puis je me suis sentie frustrée parce que j'avais tout donné pour rentrer en école de journalisme. Je me suis sentie abandonnée par l'école parce qu'il n'y avait aucun dialogue possible.
Lucie en a parlé avec son entreprise, sa chef a même essayé d'intervenir auprès de l'école. Pendant un temps, elle s'est sentie accompagnée.
Jusqu'à un certain moment où, à cause d'un reportage que j'ai réalisé avec le chef d'édition de mon entreprise, tout a basculé. Ça s'est mal passé, on a eu des problèmes pendant le reportage. Et à partir de ce moment-là, nos relations ont changé au sein de l'entreprise. J'ai subi du harcèlement moral, j'ai failli démissionner au milieu de l'année. Et ça a été l'abandon total à la fois du côté de l'école et de l'entreprise à ce moment-là.
Lucie a validé son année, mais difficilement. Au-delà du manque de soutien de l'école et du harcèlement qu'elle subissait dans l'entreprise, elle travaillait sans cesse, totalement soumise à cette idéologie du surengagement.
On était en sous-effectif. Du coup, on avait une charge de travail absolument énorme et je commençais mes journées à 8h, je terminais à 20h, voire 21h en prenant qu'une demi-heure de pause dans la journée. Et on était sous pression, enfin j'étais sous pression en permanence. Tout ça, ça s'est terminé en burn-out. J'étais incapable de travailler pendant des mois et j'en ressens encore les séquelles aujourd'hui. À ce moment-là, je ne me rendais pas compte que ce n'était pas normal parce que pendant mes études, j'ai été habituée à travailler d'arrache-pied et à ne pas compter mes heures. Donc, je me suis dit, c'est normal, c'est juste la suite logique à tout ça. Et c'est en prenant du recul quelques mois plus tard que je me suis rendu compte que c'était pas normal. Et c'est là où j'ai commencé à remettre en cause ma volonté d'être journaliste, parce que je me suis demandé est-ce que ça va être compatible avec mon rythme de vie, avec ma santé mentale, avec la charge mentale que ça infligeait.
Malheureusement, Lucie n'est pas un cas isolé, et Jean-Marie Charron a entendu beaucoup de témoignages similaires de conditions de travail difficiles.
Un jeune journaliste, a priori, il n'a pas d'horaire. Il a un horaire d'arrivée, mais il n'a pas un horaire de départ. Et dans certaines rédactions, ce truc est cultivé. Alors dans certains cas, ce surengagement, il a des limites, c'est-à-dire qu'on te dit, c'est parce que t'es jeune, mais ça va pas toujours être comme ça, tu vas avoir des moments de respiration, etc. Parfois aussi, il y a des accompagnements de cadres ou d'anciens qui vous coachent un peu ou qui vous soutiennent un peu. Mais il y a aussi beaucoup de situations où... c'est normal, tu le fais, c'est comme ça. Ce surengagement débouche chez beaucoup par des questions de malaise, de problèmes de santé. Il y a énormément de ces jeunes journalistes qui sont accompagnés par des psys. Il y en a beaucoup qui sont obligés de prendre des médicaments pour travailler. Et puis, il y en a beaucoup qui font des burn-out, quoi. Et là, ils vont arriver dans leur rédaction avec un arrêt de travail et ils vont s'entendre dire t'as préparé le boulot pour ton remplaçant, ou alors pendant qu'ils sont en pleine crise chez eux, parfois bourrés d'angoisse, etc., ils reçoivent des coups de téléphone du genre ça dure encore tes vacances. Enfin, vous voyez, des choses, non seulement c'est pas pris en charge, mais on peut dire qu'on a des comportements, notamment de l'encadrement intermédiaire, mais qui est au contraire extrêmement agressif par rapport à la période qu'il vit. On a aussi beaucoup, beaucoup de choses qui relèvent du harcèlement moral. Je ne parle même pas du harcèlement sexuel, il y en a aussi.
Sur Canal B, vous écoutez Métier Passion, Métier Poison, un épisode de la série En quête de sens.
Vous diriez quoi, Michel, à un jeune journaliste qui veut être Michel Denisot ?
C'est différent. Quand j'ai démarré, j'étais journaliste. J'ai su très tôt ce que je voulais faire. À 15 ans, j'ai décroché de l'école et j'ai fait un stage dans un journal local à Châteauroux et j'ai dit, c'est ça que je veux faire. Et donc, on a tous ici des privilégiés, c'est-à-dire que notre passion est notre métier. C'est une chance inouïe quand on se lève le matin.
C'est vrai.
Que beaucoup de gens n'ont pas. Et ce que je dirais à un jeune journaliste, c'est qu'il faut être obsédé par ça. Obsédé par ce travail.
Les journalistes s'engagent, se surengagent. Mais quels bénéfices tirent-ils du métier ? Au-delà du stress ou du harcèlement qu'ils peuvent subir, ils font aussi face à la précarité et à l'isolement dès leur début dans la profession en tant que pigiste.
Il y a vraiment un sentiment d'un décalage entre ce que, de fait, on leur demande de faire et puis ce qu'ils imaginaient au préalable. Quand je dis qu'il y a le choc de la précarité, ce choc, il est général. Pratiquement tout le monde passe par la case précarité. Et cette case, elle dure. Hein. Moi, j'ai demandé à la commission de la carte de me faire la statistique de qui est en situation précaire à 30 ans et moins de 30 ans. c'est 66%. Hein. C'est donc deux journalistes sur trois qui sont en situation précaire. Et c'est en réalité plus, parce qu'un certain nombre n'ont pas la carte de presse, parce qu'on les fait travailler en auto-entrepreneuriat ou on les fait travailler en intermittence du spectacle et tout ça. Donc probablement, c'est plus encore que 2 sur 3, vous voyez.
On peut se sentir très seul, parce qu'on est sans cesse en train d'essayer de se vendre ou vendre nos services ou nos compétences, parce qu'il y a évidemment... Un élément crucial qui est l'argent, et que au bout du compte, même si c'est un métier passion, il faut quand même en vivre, et que c'est pas un métier où on en vit très bien. Je viens de rendre un article pour Society sur lequel j'ai travaillé, alors pas à temps plein, mais quand même beaucoup pendant un mois. Le calcul est simple, hein, c'est 15 000 signes, 65 euros le feuillet, enfin, on va me payer quoi, 600, 700 euros brut.
Ça dépend complètement des mois, de la période, de ce qui se passe. En lycée, si tu fais une moyenne, tu t'y retrouves, mais il y a des mois où vraiment tu galères à y trouver ton compte.
Nous sommes des centaines de journalistes répartis sur tous les continents pour vous donner des nouvelles de l'étranger.
Il fera 42 demain à Paris. Moi, du coup, je vais être tranquille demain. Personne ne va vouloir de mes sujets. Quoi. L'international, quand il y a la canicule en France...
Mis à part une poignée de titulaires, nous sommes tous pigistes, payés à la tâche. Une armée de précaires, avec de moins en moins d'espace médiatique, mais aussi de moins en moins de droits sociaux. On turbine sans compter nos heures. Tout ça pour 1 000 à 2 000 euros par mois, qu'on vive ou pas en zone dangereuse.
Vous venez d'entendre un extrait du premier épisode du podcast Carnet de correspondante, réalisé par Marine Vlaovic, hébergée sur le site d'Arte Radio, dans lequel elle raconte son travail de pigiste à Ramallah. Le 14 octobre dernier, dans une lettre ouverte sur le site de Mediapart, plus de 170 journalistes, correspondants, correspondantes ou ex-correspondants, correspondantes à l'étranger ont interpellé les pouvoirs publics sur la détérioration de leurs conditions de travail. Beaucoup ne sont pas payés en salaire et n'ont donc pas accès à une couverture santé, à une retraite ou même à des allocations chômage. À côté de cette situation de précarité, sur le terrain s'ajoute un fort sentiment de solitude.
Ce qui est difficile, c'est pour le taf de correspondant à l'étranger que je découvre, hein, parce que ça fait qu'un an là que je bosse, c'est l'isolement du pigiste. Donc c'est le fait d'être loin des rédactions, d'avoir des contacts avec eux qui se font uniquement par téléphone, voire par mail, où on va te commander des choses sans te dire quand est-ce qu'elles sont diffusées, sans te faire de retour sur ce que tu as fait, si on a bien aimé ou non, parfois de ne pas avoir de réponse quand tu proposes des choses, être obligé de relancer trois fois avant de recevoir un non, pas forcément justifié, enfin être utilisé un peu comme de la chair à canon pour remplir 1 minute 30 d'un journal ou 4000 signes d'une page inter dans laquelle on savait pas trop quoi mettre. Et puis dès que là il y a des sujets qui intéressent très fort les rédactions, bah là on va t'appeler plusieurs fois pour te demander quand est-ce que tu peux rendre, on va te demander quelque chose de très rapidement, parfois, mais pas toujours, mais dans la majorité des cas, très peu de recul sur toi, tes conditions de travail sur place, si tu te mets en danger ou non, si l'idée qu'a le mec à la rédaction à Paris est forcément applicable en Égypte. Parfois, il n'y a pas souvent de discussion, c'est-à-dire qu'ils vont te dire « mais en fait, ça c'est facile à faire », mais non, c'est pas simple à faire.
Martin explique qu'à cela s'ajoutent des incertitudes sur l'après, le moment où ils rentrent en France après leur mission, et qu'ils ne savent pas où ils vont pouvoir travailler.
Même quand ça fait 10 ans que tu bosses à l'étranger, t'as aucune garantie sur le fait de pouvoir rentrer en France et trouver un travail dans une rédac, pouvoir te réinstaller en France de manière à peu près stable. Et ça, c'est un peu déprimant, ouais. Mais bon. Et ça, je dis ça par des témoignages de collègues, hein, qui ont pu bosser longtemps dans certains pays, se sont absentés pendant 6 mois, 1 an pour faire une pause, Et en fait, après, tu recontactes tes rédacs qui pourtant ont bien aimé ton travail, ont eu beaucoup à faire à toi, t'ont beaucoup mis à profit pour remplir leurs pages ou leurs journaux. Et puis d'un coup, c'est silence radio. Et puis tu leur dis, bah, j'aimerais bien, pourquoi pas aller faire un reportage là-bas ou m'installer ici. Et on te dit, bah non, écoute, on te doit rien, donc tu vas te faire foutre et tu bosses avec quelqu'un d'autre, quoi. Donc c'est un peu ce côté ingrat là, il est pas très évident. Mais je vois pas trop comment on pourrait le faire évoluer facilement.
Les journalistes font face à un décalage au regard de leurs attentes, auxquelles s'ajoutent des conditions matérielles compliquées. Cela n'est pas sans conséquence. Aujourd'hui, ils remettent en cause ce qui était leur vocation, voire quittent la profession. 40% des nouveaux détenteurs de la carte de presse ont quitté la profession au bout de 7 ans, selon les chiffres de Samuel Bourron pour l'Observatoire des métiers de la presse.
Alors pour le futur, je ne me vois pas spécialement continuer en secrétaire de rédaction parce que la rédaction d'articles me manque. J'aimerais refaire du terrain, mais je ne sais pas si aujourd'hui j'en suis encore capable. Je pense aussi à arrêter, tout simplement. Peut-être me reconvertir vers quelque chose de plus simple, de moins éprouvant. Et je ne sais pas si je vais tenir jusqu'à mes 65 ans.
Et puis, je crains qu'il y ait un peu une attitude un peu cynique, même si personne n'osera complètement la formuler comme ça, mais qui serait de se dire, bon, bah, on a besoin de jeunes, on est dans une situation... Globalement, les médias sont dans une situation difficile. C'est particulièrement vrai pour la presse écrite. Ça veut dire qu'on ne peut pas payer bien tout le monde. Ça veut dire qu'on va imposer la précarité à beaucoup plus qu'il ne faudrait. Et ceux qui vont quitter étaient peut-être bien meilleurs. Et vous êtes en train de perdre toute cette capacité d'innovation, toute cette capacité de créativité à propos de l'information. Et vous vous en rendez même pas compte, quoi.
Vous êtes toujours sur Canal B. Vous écoutez Métier Passion, Métier Poison, un épisode de la série En quête de sens.
Moi, j'aimerais bien être salarié, de pouvoir. Mais bon, ça, à mon avis, c'est très utopique. Enfin, ça existait il y a encore pas si longtemps que ça. Mais être salarié et ne pouvoir bosser que pour un média, ça pourrait être bien. Je pense que la couverture journalistique serait plus aboutie et le fond de l'information publié beaucoup plus intéressant. Mais bon, c'est complètement illusoire au regard de la situation économique de la presse en France.
Que va devenir le journalisme ? Tous les ans, de nombreux candidats passent les concours d'entrée dans les écoles. Les journalistes ont des ambitions et veulent continuer à exercer cette profession qu'ils aiment tant. Alors, comment faire en sorte que les journalistes restent ? Et d'ailleurs, comment s'en sortent ceux qui restent ?
Si on prend la question du collectif, effectivement, c'est le bon fil à tirer.
Quand on est pigiste, on a tendance à accepter beaucoup de choses, comme être payé en facture, en droit d'auteur, en cachet, ou en tant qu'intermittent du spectacle. Pour lutter contre cela et faire valoir leurs droits, les journalistes se rassemblent.
Le fait d'avoir intégré le groupe des pigistes du Club de la Presse à Rennes m'a ouvert à un certain nombre de problématiques et m'a poussé à m'intéresser à nos droits sur lesquels j'étais pas du tout au fait. Le fait d'aller aux 48 heures de la pige et de lire, il y a un petit fascicule qui s'appelle le guide des droits des pigistes qui est hyper bien fait, qui a été distribué largement lors des dernières 48 heures à Marseille. Et ben pareil, j'ai eu plein de réponses à mes questions sur comment ça fonctionne, est-ce que j'ai le droit au chômage et est-ce que je peux être payée en tant que journaliste, même par une entreprise qui ne se dit pas entreprise de presse. La réponse est oui.
Au-delà des droits, le collectif, c'est aussi rompre l'isolement.
En fait, ça m'apporte à la fois du soutien moral, enfin psychologique, de l'entraide, vraiment juste humaine. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est hyper important. Et en même temps, c'est du soutien professionnel, c'est-à-dire vraiment, ça ouvre des opportunités. Moi, en travaillant juste en coworking, j'ai eu une proposition d'écrire un bouquin sur une de mes enquêtes. J'ai eu, depuis que je suis arrivée à Rennes, une proposition pour enseigner à l'INSA.
Pour réaliser cet épisode, on a rencontré Olivier Coldefy, psychologue clinicien, qui reçoit beaucoup de pigistes dans son cabinet. Lui aussi insiste sur la nécessité du collectif
pour travailler dans de meilleures conditions.
Ne pas rester seul, travailler avec des collègues, au moins il y a de l'échange, il y a des choses qui se construisent, il y a de l'interaction. Ça c'est important, c'est essentiel. Une entreprise, plus elle est importante, plus il y a un squelette. Il y a des managers, il y a des services RH, il y a des représentants du personnel, des représentants harcèlement, etc. Quand on est pigiste, on n'a rien de tout ça. Donc il faut se construire son squelette.
C'est aussi au niveau de la réglementation au sein des médias qu'un travail doit avoir lieu. Car le journalisme, pour les pigistes comme pour les salariés, est un métier où vie professionnelle et vie personnelle se confondent. Il faut leur permettre de pouvoir couper.
Le terrain d'exercice du journaliste, c'est le champ social. Un journaliste, il travaille sur le quotidien. On a déjà un mélange vie perso-vie pro. Le lieu de travail n'est pas un espace dédié, c'est le lieu de travail dédié, c'est la société en elle-même. Qu'elle soit loin, l'Amazonie, là où je vais bosser de temps en temps, que ce soit sur les terrains de guerre ou de conflits armés, voilà, en tout cas, c'est le quotidien. Là, on a une difficulté. Il faut poser un cadre. Un cadre, j'ai envie de dire, même au niveau légal, là, j'ai envie de dire, même dans un établissement, il y a des règles. Le cadre, ça pose le champ des possibles et des interdits.
Pour moi, ce qui compte déjà, c'est de rentrer dans une entreprise où il n'y a pas énormément de turnover. Parce que c'est signe que l'entreprise est malsaine pour moi. Donc, ce qui m'importe, c'est de trouver une entreprise qui soit à l'écoute à la fois de mon passé, de mes expériences et qui me donne de l'espoir pour la suite. Et c'est pas tant l'argent qui me motive, parce que je sais que c'est une profession qui est assez précaire et qu'il faut avoir un certain bagage avant d'avoir un bon salaire. Mais ce qui m'importe, c'est de trouver une entreprise à l'écoute et qui propose, par exemple, du télétravail si on en a besoin, qui au vu de mes troubles psychologiques, propose des aménagements, par exemple, de travailler à 70 ou 80% au lieu de faire un 100%. Et qui accepte ces aménagements.
C'était Métier Passion, Métier Poison, le premier épisode de la série Enquête de Sens, réalisé par Camille Margerie et Isis Marville.
Dans cet épisode, vous avez pu entendre Aloha Baby du groupe La Femme, Jardin d'Éden de MC Solar, Make Sense de Georgia Smith, un extrait de l'émission Quelle époque du 18 mars 2023 et un extrait de l'épisode Bienvenue à Ramallah du podcast Arte Radio Carnet de correspondante de Marine Vlaovic.
Demain, Anna Odegon et Daphné Brionne parleront du fact-checking dans l'épisode L'info à l'épreuve du détecteur de mensonges. Bonne journée sur Canal B.